Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Nouvelle tendance, nouveaux comportements, mais aussi bonne vieille névrose. C'est la société numérique dans laquelle nous vivons, une société qui méritait son émission. C'est Studio 404. Bienvenue.
Studio 404, présenté par LAM UA.
Première émission de l'année avec Studio 404 et ils sont avec moi. Je vous rappelle que nous avons 4 chroniqueurs pour parler de 4 sujets de société numérique. Ils sont retournés chez leurs parents, je pense qu'ils ont tous bien mangé, ils s'en sont un peu remis, ils sont en pleine forme. Je vous demande d'accueillir en premier Monsieur Fibre Tigre, comment ça va ?
Ça va très bien, super année, on va s'éclater.
Alors, je pense qu'il a pris une bonne résolution, c'est de ne pas dire bonjour, c'est Fibre Tigre, ça nous fait tous plaisir. À côté, c'est Sylvain, comment ça va Sylvain ?
Une forme olympique.
Une forme olympique, bah dis donc, c'est... C'est beau, il a bien mangé. Mélissa, comment vas-tu ?
2013, année du buzz, je n'ai que ça à dire.
Ah non, je crois que c'était 2013, année de la buzz.
Année de la buzz.
Année de la buzz. Et à côté de toi, Mélissa, bien sûr, Daz, comment vas-tu ?
Ça va très bien, un calme olympien.
Alors, dis donc, il y a une forme olympique, un calme olympien.
C'était pour jouer sur les assonances, on est des poètes en 2013.
La poésie n'est pas morte en 2013, la poésie est toujours là. En tout cas, nous allons attaquer 4 sujets qui vous concernent tous. Ça tournera autour du stalking, de la science, de Google et de notre condition de téléspectateur devant la télévision. On démarre tout de suite.
Sujet numéro 1.
Stalking. Tous espions, tous espionnés.
Quel joli mot que ce stalking, on va en parler plus en détail. C'est une pratique qui est devenue générale, ce qui est quasiment devenu une norme, mais Mélissa va nous en parler. Mais c'est quelque chose qui était un peu, à la base, un peu malsain, un peu creepy, comme disent les Anglais. Alors Mélissa, toi, qui es sur Internet ? Toi qui es suivie par plein de gens. Donc toi qui es peut-être suivie par des gens en secret. Qu'est-ce qui se passe autour de cette activité du stalking qui est vraiment l'espionnage, le fait qu'on espionne et le fait aussi aujourd'hui qu'on est tous espionnés ?
Je vais commencer par un exemple. En fait, avant de venir enregistrer l'émission, j'ai passé à peu près 10 minutes à remonter la timeline Instagram d'une nana. Cette fille, je ne la connais absolument pas. Je ne vais pas citer son pseudo, mais c'est une amie de Sylvain, ici présent. Et Sylvain avait donc vendredi soir liké une photo de cette jeune fille avec qui il était en soirée. Et donc j'ai passé à peu près 10 minutes avant de venir à regarder cette timeline pour comprendre quoi, en gros, que elle se prenait en photo à moitié à poil, qu'elle avait un chat.
J'ai pas d'amis comme ça.
Qu'elle avait un chat, qu'elle habite à peu près un studio et qu'elle vit à Paris.
Mais alors, voilà. Qu'est-ce qui te motive à suivre cette personne que tu ne connais pas ?
Sylvain.
Mais que Sylvain aimerait bien connaître, je pense.
Et je pense que ça, en fait, c'est du pur voyeurisme. À l'origine, en fait, le mot stalking se réfère à l'approche furtive qu'ont les chasseurs pour tuer le gibier. Traduit donc ensuite par traque furtive. Et donc aujourd'hui, en fait, le stalking est devenu une pratique qu'on a tous les jours sur Internet. Et donc c'est ainsi que des sites de techos comme Lifehacker, que vous connaissez tous ici, vous donnent des tips pour bien stalker, donc des moteurs de recherche qui vous permettent de retrouver toutes les données sur une personne que vous ne connaissez pas forcément. Et en 2008, on trouvait même déjà des articles dans le magazine pour adolescentes 17 aux États-Unis sur Dating 101 Online Stalking. Donc en fait, draguer pour les nuls et stalker sur Internet.
Donc le stalking, on parle vraiment d'une activité qui est quasiment cool.
Bah, en fait, on est passé dans un mode de stalking soft, parce qu'en fait, c'est quand même du harcèlement criminel. Aux États-Unis, c'est condamné, mais en France, il n'y a pas de condamnation. Et en fait, ce stalking soft consiste à, disons, aller voir ce que les gens font sur Internet. Et c'est, en fait, très facilité par les réseaux sociaux, parce qu'ils ont compris que c'était un truc complètement addictif. Et donc, depuis quoi, quelques mois, il y a un ticker sur Facebook où vous pouvez voir en temps réel, mais vraiment à la seconde près, qui like quoi, qui est tagué sur quelle photo. Et en fait, ça vous permet d'avoir des informations que vous auriez jamais eues par ailleurs sur Facebook. Mmh. Et il y a beaucoup de gens, moi je connais énormément de gens qui regardent ce truc précisément. Même chose sur Instagram, voilà, on peut voir qui like quoi, à quel moment, qui laisse un commentaire. Et sur Twitter, vous avez cette nouvelle rubrique Discover, avec Activity dans Discover, qui consiste en fait à vous dire qui a suivi quoi, qui a mis en favori quel article, et donc on peut voir en gros qui fait quoi.
C'est une sorte de stalking omniprésent, c'est une sorte de traînée que les gens laissent derrière eux de manière automatique.
Ça. Et c'est une des pratiques de réseau qui, disons, a fait qu'aujourd'hui on s'espionne tous les uns les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 ans, personne se connaissait sur Internet. Si les blogueurs se connaissaient, mais tout le monde ne savait pas qui fonctionnait comment, et ça restait un truc de nerd. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Twitter, enfin. Il reste encore des antis, mais on cherche à savoir des choses qu'on saurait pas sans ça, quoi. Et on se retrouve dans des situations bizarres où quelqu'un va vous dire ah ouais, j'ai vu qu'hier tu faisais ça en soirée et t'avais envie de lui raconter ta soirée, et en fait non, tu lui racontes pas ta soirée parce qu'il a vu les 3 photos sur Instagram, et tu dis putain, je peux plus te raconter ma soirée, tu sais déjà tout. Donc c'est un truc qu'on apprécie, qu'on a complètement adopté dans nos pratiques, et ça, disons que ça change clairement notre quotidien. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, donc, j'ai passé 10 minutes à regarder les photos de cette meuf.
Qu'est-ce que tu faisais sur mon flux Instagram à la base?
Dans la rubrique abonné, il y a marqué Sylvain Palais likes la photo de, je sais plus comment elle s'appelait, mais bref, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie que tout le monde aille chercher ce que...
Moi, je veux bien avoir le nom tout à l'heure off. Donc, est-ce que le stalking, c'est devenu une sorte d'activité presque normale? On passe son temps, quasiment avant on surfait sur net, et puis aujourd'hui, on surfe un peu sur la vie des gens.
C'est ça. Clairement, on surfe sur la vie des gens pour savoir ce qu'ils font. Après, on n'est pas dans les démarches qui sont celles de ce qu'a pu vivre la jeune Jessie Slaughter, une petite américaine de 13 ans il y a 2
Jessie
ans.
Jessie Slaughter, non, le nom.
Jessie Slaughter.
Slaughter par le gong, non,
ça veut dire boucherie quand même.
C'est ça, qui avait un pseudo du genre Kiki Girl 13 sur internet, et qui en fait faisait des vidéos pour attirer l'attention.
Et en fait, et les mecs de... attirée, finalement.
Voilà, elle a attiré l'attention des mecs de 4chan, et donc là, c'est plus du tout le truc soft de Instagram. J'ai vu les photos d'une copine de Sylvain. C'était plutôt, ils ont trouvé son adresse, son numéro de téléphone.
Son adresse physique, on parle.
Voilà,
là.
Ils lui ont envoyé des lettres, ils l'ont menacé, et donc ça a donné lieu à une vidéo très connue sur internet où en fait le père poste une vidéo avec sa fille sur internet et où il dit consequences will never be the same, et je vais appeler la cyberpolice. Donc voilà, il y a plusieurs, disons, on peut faire une typologie du stalking sur internet, mais clairement, disons, les réseaux ont compris que c'était addictif et ont mis en place des fonctionnalités qui nous permettent de faire ça le plus souvent possible.
Et d'ailleurs, tu en parlais il y a quelques instants, je voulais faire rebondir Sylvain là-dessus. Sylvain, dans sa chronique du mois dernier, nous parlait de sérendipidipidipidipidipité.
Oui, cyberflânerie.
Est-ce que, d'une certaine manière, lorsqu'on voit que Mélissa se balade sur le profil d'une amie à toi, par pure curiosité et parce qu'elle se perd, est-ce que le stalking, c'est pas aussi une manière de se balader, de se laisser porter d'existence en existence?
C'est magnifique ce que tu dis.
C'est très beau.
Et c'est tout à fait vrai. Les réseaux sociaux nous ont permis de créer des liens entre les personnes, finalement. De la même façon, Google a créé des liens entre les sites, des backlinks. Facebook, Instagram, Twitter créent des liens entre les personnes. Et oui, on peut rebondir de personne en personne, d'existence en existence, comme tu dis. Et
de la flânerie.
C'est une sorte de flânerie,
c'est
finalement.
C'est du voyeurisme.
Ça peut devenir un vortex. Hein. Tu peux trouver 3 heures plus tard.
Quand Fibre Tigre flâne sur les bombes chauves-souris, c'est de la flânerie parce que tu tombes dessus par hasard.
Non, mais
tu flânes pas sur les photos à moitié à poil d'une nana.
Si une fille met des photos à moitié à poil sur Internet, c'est qu'elle veut que ses photos soient vues. Donc c'est pas du voyeurisme.
Il y avait 80 likes.
C'est-à-dire qu'il y a de l'exigence. Alors ça, c'est une autre question, c'est que effectivement, est-ce que le voyeurisme, qui est le stalking, le voyeurisme généralisé, vient aussi d'un exhibitionnisme généralisé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu parlais, mais ça, juste
pente glissante,
de stalking soft. Tu parlais de stalking
pente
soft.
Très glissante.
Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'espionner parce que les gens laissent quand même beaucoup plus de traces et beaucoup plus d'eux-mêmes. Daz, pourquoi tu me parles de pente glissante? Qu'est-ce qu'il y a?
Parce que à ce moment-là, on excuse tout. Et puis si j'ai violé cette fille, c'est parce qu'elle avait mis une mini jupe. Donc
c'est exagéré, mais
c'est un petit peu exagéré.
Ben, d'un tout de suite, loin dans l'hyperbole, loin dans
les faux. Le point
Godwin n'est pas loin. Will never be the same, mais très loin les consequences. Hein.
Non, mais en fait, comme le stalking, il est inévitable.
Pourquoi pourquoi Fibre, le stalking est inévitable?
Il est inévitable parce que il est utilisé à tous les niveaux hiérarchiques sociologiques, c'est-à-dire votre patron, votre DRH, votre copain, votre fils dans la cour de récré, il a les mêmes. D'ailleurs, ils ont tous les mêmes moyens à peu près. On peut hacker les boîtes mail, mais bon, voilà. Et donc, comme il est généralisé, vous y échappez pas. Et il y a des gens qui ont cette capacité à transformer leur faiblesse en force, c'est-à-dire, ok, tu vas me regarder, et je vais avoir des likes, c'est-à-dire, je vais être ta star demain. Voilà. Et donc, c'est l'ami de Sylvain, en l'occurrence, qui avait 80 likes. C'est pas mal. Beaucoup de gens aimeraient avoir ces likes-là. Il serait même
un joli score. Donc, tu as stocké aussi l'ami de Sylvain.
Ah, non, ça m'intéresse pas trop. Par contre, j'aimerais apporter une nuance parce que, ça m'est arrivé d'arriver dans des boîtes mail de personnes.
J'ai ouvert une Porsche. J'étais sur le mail de quelqu'un avec full access.
Non, mais je vais vous donner un exemple très simple pour hacker des boîtes mail qui se
font. Alors, on attaque quand même un autre niveau du stalking. Parce que là, Mélissa parlait en fait de soft stalking, qui était un concept très intéressant.
C'est sérendipité.
On est en train de faire une synthèse des données qui sont à disposition. Et il y avait aussi le tigre, on en parlait tout à l'heure.
Je vous donne un truc assez marrant, c'est que les gens qui utilisent Emule ou des logiciels peer-to-peer parfois mettent tout leur disque dur en partage, et notamment ils mettent leur mail, enfin leur client mail en partage. Donc vous pouvez les télécharger. Voilà, vous pouvez vous amuser à mettre des extensions de client mail. Vous téléchargez leur mail, vous avez les mails des gens. Et quand vous regardez les mails des gens, eh ben c'est très chiant parce qu'ils ont exactement les mêmes mails que vous. Et salut, viens, on va te prendre un burger demain, blah, etc. Et du coup, enfin, autant garder vos propres mails. Et du coup, c'est pas très intéressant.
Voilà. Autant se s'auto-stalker.
Voilà. Et c'est pour ça que ça vous rend, mais absolument plus, vous perdez toute votre paranoïa parce que si vous dites, ah, François Hollande, il regarde mes mails et tout, c'est terrible. Mais en fait, quand vous regardez les mails des autres, vous dites, oh là là, vraiment, il doit se faire chier François Hollande parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à dire, quoi.
Donc finalement, le stalking, c'est quelque chose qui était intéressant, mais qui nous montre une réalité très banale. On revient à la banalité.
C'est quand même très utile dans certaines conditions. Je sais pas, j'ai un rendez-vous avec une fille. Je vais aller au hasard, je vais aller stalker un petit peu son profil Facebook, je vais regarder ce qu'elle aime, et peut-être que je laisserai glisser dans la conversation un moment, tu sais, moi j'adore les chats persans, toi aussi, mais c'est génial, mais c'est une sacrée coïncidence quand même.
C'est possible, c'est super. Enfin, mais juste draguer, c'est génial.
Justement, quand on aime quelqu'un, quand vous aimez vraiment une personne, j'aime beaucoup Monsieur Lam, j'aurais pas envie de voir les poils de ses fesses, par exemple, parce que il est très beau quand il est habillé.
Il va pas les montrer, quoi.
Et donc, en fait, c'est intéressant que les gens gardent leur part de mystère. Et moi, en fait, ma version des choses, c'est quand j'aime quelqu'un, je ne le stalke pas. Mais quand je les aime pas, ouais, je les stalke bien. Ouais.
C'est une bonne
politique. Ah, pas mal. Et tu t'y tiens réellement? Parce que imagine, tu te mets à aimer quelqu'un que t'aimais pas forcément au départ.
Franchement, mais à vous, tu nous as tous stockés avant de nous connaître.
Non, pas vraiment, mais en tout cas, comme vous avez pas des vies extraordinaires, ça valait pas le coup.
Bon, on finira sur une note positive. Qui aime bien, stalke bien.
FAQ.
Première FAQ avec une question que tout le monde se posait secrètement et que tout le monde commence à se poser ouvertement. On me dit, j'ai l'impression que enfin, comme tout le monde s'y attendait, Apple a perdu le mojo, a perdu son aura sacrée. J'ai l'impression que les produits sont plus embêtants, qu'il y a moins de surprises, que les présentations sont moins spectaculaires et que les concurrents les rattrapent. Alors, à votre avis, est-ce que Apple, c'est déjà la fin ou pas? Daz, j'attends la fin parce que Daz l'a déjà ricané. On va commencer au hasard par Sylvain. Qui est pro Android?
Moi, je suis pro Android, mais j'aime bien les mecs d'Apple. C'est quand même des mecs gentils. non, j'ai pas vraiment d'avis. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une tendance un petit peu à la mollesse.
Ouais. À la mollesse. Donc, tu penses quand même qu'Apple a un peu perdu le mojo?
Un petit peu. Ouais.
Fibre.
Oui, je pense qu'ils ont perdu leur mojo parce qu'ils ont perdu Steve Jobs, ok, et que Apple c'était Steve Jobs dans la tête de beaucoup de personnes plus que le iPhone. Et dès que, on va dire, l'action Apple a été un peu fébrile à la perte de Steve Jobs, ils ont embauché un peu de l'arrière-garde, pour pas dire des ringards du design, comme Stark. Et donc c'est vraiment genre le message, c'était nous sommes aux abois, nous n'avons plus de product design de lead, quoi, que faire? Donc à mon avis, ils sont un petit peu perdus encore.
Oh là là, il y a Das qui fronce les sourcils. Je te préviens, Das, c'est une fac, t'auras droit qu'il y a une réponse. Ouais, mais d'abord, ouais. Mélissa. Est-ce que tu penses qu'Apple, qui est une marque que tu aimes bien parce que tu utilises ses produits, est aussi cool?
Je suis tout Apple.
Et aussi cool et en avance sur la concurrence qu'avant?
Je suis tout Apple, mais j'ai mis à jour mon système d'exploitation Mac. Je suis passé sous Lion avec un Mac 2008 et mon truc rame grave.
Non, mais t'es pas obligé de changer d'OS. Parce que Mac 10.6, il marche très très bien. Mac 10.6.
Oh là là, on rentre pas dans le débat. On est dans une FAQ. Donc Mélissa a un peu déçu. Donc on a trois déçus et Daz, qu'est-ce que t'en penses?
Moi j'en pense
Daz,
que...
Daz qui est assez spécialiste parce que tu as longtemps été rédacteur et tu es toujours du journal du Mac.
En fait je pense que pas mal de gens ont juste perdu le voile qu'ils avaient sur les yeux à la mort de Steve Jobs. Parce que pour moi, Apple n'a jamais été une boîte ultra magique. Et Steve Jobs, c'était pas Gandalf. Faut arrêter un peu avec ça. Et moi, ça me fait plaisir que justement les gens arrêtent de prendre Apple pour un peu le sauveur de l'humanité et la replace à son statut d'entreprise qui fait des produits, quoi. Voilà, c'est tout.
Donc on est tous d'accord, Apple n'est plus sur un piédestal, mais c'est peut-être pas plus mal.
Sujet numéro 2.
Pourquoi la science est devenue cool ?
Pouvait-on placer le mot science et le mot cool dans la même phrase ? Eh bien oui. Eh bien oui, parce que ces derniers temps, la science a l'air d'avoir le vent en poupe, et le vent en poupe pas auprès de ses pratiquants, mais auprès quasiment du grand public, que ce soit à travers des séries de télé, que ce soit à travers des blogs, des BD, et même le succès d'entreprises et de projets scientifiques auprès du grand public et auprès des médias. Pourquoi notre ami, notre caution scientifique, notre caution mystère, Fibrotique, va nous en parler ?
Bac plus 5, les enfants.
Oh là là, bac plus 5. Bac plus 5.
Bonjour, mon nom est Fibre Tigre. Comme ça, je l'aurais placé. Laissez-moi vous poser une simple question. Peut-on propulser un homme dans les airs avec suffisamment de bouteilles de Coca Light et de Mentos ?
Non, mais
réponse,
avec des Kalachnikov.
Réponse à la fin. Donc la science, est-ce qu'elle est à la mode ? Oui, elle est à la mode en ce moment. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout avec le même glamour et le même hype, on va dire. Et encore moins il y a 30 ans, alors que ça bougeait beaucoup plus en France il y a 30 ans au niveau de la science. Donc, à titre d'exemple, Modern Cool, donc il y a le blog de Marion Montaigne.
Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même.
Voilà, et également un succès, on va dire, d'édition. Également, toujours en tête de Gondolfnac, on a Théorème Vivant, qui est un livre de Cédric Villani, qui a médaillé Fields, donc le prix Nobel des maths, en quelque sorte, qui est également un jeune homme qui parle bien, qui présente bien, que les télés aiment bien recevoir. Et également, le CNES, donc l'Agence Spatiale Française, qui appalgue les gens du Festiblog et leur dit, venez, on va en parler sur Internet auprès des jeunes. Donc, ça devient cool. Alors, pourquoi on parle de la science ces 10 dernières années ? Donc déjà, il y a un terreau qui s'est fait en France. Durant 5 années, le show télévisé le plus vu dans le monde, sauf dans 2 pays, la Corée du Nord et l'Iran, comme d'habitude, c'est Les Experts. Les Experts, c'est...
CSI, dans
CSI, hein. Voilà. Les Experts, bon, pas, enfin, surtout Las Vegas, donc démarche scientifique.
Donc c'est la police scientifique.
La police scientifique, on a des éprouvettes, on a la magie. Avant c'était Star Trek, Warp 8. Là maintenant c'est les éprouvettes et des termes scientifiques très sérieux. On a également des projets titanesques. Le LHC, le fameux accélérateur de particules franco-suisse, qui a coûté 9 milliards de dollars. On a la NASA qui a des dizaines de millions de dollars par an. Et ces gros projets qui donc sollicitent énormément de fonds publics, il faut les faire tolérer par le peuple qui a faim et qui est dans la misère. Voilà. Et donc, on essaie de les rendre cool. Et donc, comment les rendre cool? Le rap, ils ont fait leur petit LHC. On a parlé de micro-trous noirs. On a fait toute une mystique autour du LHC.
Il y a toute l'opération autour de Curiosity Rover, le robot sur Mars, qui est un énorme succès. C'est un peu Wally en vrai, le petit robot.
Voilà, exactement. On a parlé aussi de la particule de Dieu. Boson X, un physicien.
Personne ne comprenait, mais tout le monde en parlait.
Voilà, on en parlera un jour peut-être. Voilà. Également, il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, le technicien de la NASA qui s'était fait une petite coupe, une Mohawk.
Ouais.
Voilà, donc tellement cool, voilà.
Non, puis même les tweet pics de la NASA aussi sont vachement.
Il a ouvert un Tumblr parce que Mélissa, tu adores les Tumblr. Et enfin, dernier point cool. Donc vous savez que la mode c'est le geek et le geek chic. Ok. Ah.
Je refuse cette expression. Franchement.
Beaucoup de gens aiment vendre des Lego geek ou je sais pas quoi. Et par extension, on parle un petit peu de la science parce qu'il y a pas mal de petits gadgets scientifiques qui sont cool. Voilà. Ensuite, deuxième point fort, on dit souvent Internet a la réponse, Google a la réponse, mais en fait, c'est surtout Wikipédia qui a la réponse quand vous posez une question.
Qu'est-ce que Wikipédia est scientifique alors ?
Eh bien, en fait, Wikipédia, elle est rédigée de façon neutre, elle est rédigée de façon sourcée, elle est rédigée de façon construite, elle est revérifiée par derrière. Finalement, c'est une encyclopédie assez rigoureuse sur son exécution, donc elle est établie sur la méthode scientifique.
Donc en fait, c'est une sorte de culture scientifique à laquelle on accède sans le savoir.
Non seulement c'est une culture de fond,
discipline scientifique.
Mais également ce sont des mécanismes scientifiques qui sont mis à l'œuvre. Enfin, on a l'émergence d'une science populaire de divertissement.
Une sorte de pop science.
Exactement, qu'on a avec Mythbusters. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, allumer une allumette en tirant dessus avec un pistolet.
Alors, Mythbusters, qui est aussi un équivalent en France, plus ou moins, qui s'appelle...
On n'est pas que des cobayes.
On n'est pas des cobayes.
Alors, voilà, transité par l'anglais Brainiacs. Et donc, en fait, c'est pas de la vraie science. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ça prend pas vraiment forme. C'est-à-dire qu'en France, il y a un mimétisme anglo-saxon en disant « Oh, la science, c'est cool, on aime la NASA, on aime Mythbusters », mais on n'a pas nos Mythbusters à nous. Ce qui fait que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que la science, c'est fondamentalement quelque chose d'assez austère, qui nécessite de la rigueur et de l'étude, et donc on a encore cet esprit-là au fond. Et puis pour, d'ailleurs, par exemple, Wired est un magazine assez cool, mais qui n'arrive pas du tout à s'implanter en France parce qu'on n'a pas cet esprit scientifique-là. Mmh. Et pour terminer, non, il n'est pas possible de faire voler quelqu'un avec des bouteilles de Mentos.
Oh, la déception.
Notons que il y a beaucoup de vidéos qui montrent les tentatives de jetpack au Mentos, et elles sont toutes américaines, et certaines sont sponsorisées. Preuve que c'est une pop culture intéressée.
Donc la science quand même rentre dans la pop culture. Alors en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est que la science est devenue cool, mais que d'une certaine manière, elle s'est un peu trahie ou elle s'est un peu travestie pour devenir cool.
Ben forcément, demain, si on fait une roue de la fortune où il faut démontrer des théorèmes mathématiques, vous allez perdre de l'audimat parce que ça reste austère malheureusement. Je compare souvent la science à une sorte de mine de charbon. Vous êtes dans le noir toute votre vie à la recherche d'un diamant et un jour, quelqu'un arrive à trouver un diamant, souvent c'est pas vous, et entre-temps vous êtes tombé amoureux des charbons d'ailleurs. La rigueur que nécessite l'exploration de la science ne peut pas se retrouver aujourd'hui dans un show de divertissement.
Alors, Sylvain, toi qui bosses chez l'annonceur, Fibre nous dit que la science dans sa forme la plus pure reste un truc qui est très embêtant et pas forcément ludique. Et est-ce que toi tu vois que c'est quand même quelque chose qui commence à peser dans ce qui doit être cool, dans les champs qui sont sexy, on va dire?
Ouais, franchement, on l'observe au quotidien sur Internet. Et quand tu dis que c'est la NASA ou ces organismes qui essayent de rendre la science cool pour justifier le fait qu'on dépense des milliards, etc., je suis pas d'accord. Moi, je pense que si la NASA fait ça, c'est parce que la demande vient des gens. Moi, j'observe les gens et je vois de plus en plus un attrait pour la science, un amour de la science. Sur Twitter, il y a énormément de gens que je considère comme sapiophiles. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par l'intelligence.
Donc, à ne pas confondre avec les sapologistes.
Non, c'est des gens qui sont attirés par les belles sapes.
Et les sapiophiles, donc des gens attirés par l'intelligence.
Exactement.
Que la notion d'intelligence.
C'est-à-dire que quelqu'un d'intelligent est séduisant. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui a une rigueur scientifique, qui peut apprendre des choses aux gens, est séduisant pour certaines personnes. Et ces personnes qui sont sapiophiles, on a l'impression qu'il y en a énormément parce qu'en fait, on côtoie sur les réseaux sociaux une population qui est très parisienne, assez branché, assez aisé, parce que bon, on va pas,
assez nerd aussi,
on va pas se leurrer, ouais. Assez nerd puisqu'on est sur internet, etc. Donc effectivement, moi je trouve qu'il y a une tendance à l'amour de la science, mais qui vient pas forcément des organismes, qui vient d'une volonté des gens eux-mêmes.
Non, mais ça reste une illusion, je veux dire. Les gens n'ont même pas n'arrivent pas à résoudre une équation du second degré. C'est niveau terminal.
Fibre est énervé. Mais Mélissa, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce côté? Est-ce que t'étais quelqu'un qui, par exemple, n'aimait pas la science, peut-être, et qui trouve ça, du coup, aujourd'hui, plus cool, plus acceptable, plus pop culture?
Mais en fait, je pense que ça vient de la vulgarisation des sujets science aussi dans les médias, parce que j'ai trouvé un article du Guardian qui disait « How science became cool », donc comment la science est devenue cool,
dedans.
Qui expliquait, en fait, que les sujets scientifiques dans les médias ont vraiment commencé à être diffusés à partir des années 40. Avant, c'était juste des sujets pour dire « un tel a gagné tel prix, un tel a gagné tel prix », donc les gens savaient pas ce qui se passait dans les labos. Et à partir de 1940, en fait, ils ont commencé à publier des sortes d'enquêtes / articles magazines sur ce qui se passait dans les labos, quelles découvertes, tout ce qu'on explique maintenant, ouais, par les études. Enfin, c'est fou, il y a des études pour tout et des articles pour les études pour tout. Et les médias ont aussi compris que la vulgarisation intéressait les gens. Les revues scientifiques, il y en a de plus en plus. Les journées scientifiques, il y en a de plus en plus. Il y a Slate qui a le blog Bat Astronomy, par exemple, à propos de l'astrologie, qui marche super bien. Ce qui fait qu'en fait, ça a aussi donné un accès à la science et les gens sont plus dit je peux pas lire des trucs sur la science parce que ce sera impossible. Et Internet a rendu ça hyper facile justement en donnant plein de ressources.
Alors on parle d'Internet, etc., mais il y a aussi, je pense, le matériel, la technologie. Daz, est-ce que tu penses pas que notre génération, on en parlait tout à l'heure, geek ou geek chic ou geek social, qui est quand même vachement plus intéressée par la technologie qu'avant, qui est plus, on va dire, en rapport quotidien avec la technologie, les nouvelles technologies, ça ne l'a pas aussi ouvert, peut-être, les yeux et les goûts autour de tout ce qui est scientifique?
Oui et non, mais en fait, pour moi, c'est surtout la cible qui a changé. Enfin, la cible. Je dirais que l'audience, finalement, et comme l'a dit Sylvain, c'est des gens qui sont un peu plus instruits. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sur les réseaux sociaux, sur Internet, ceux qui créent le contenu, ceux qui font bouger les choses, entre guillemets, sur Internet, généralement, sont des gens ultra connectés. Quand on est connecté, c'est qu'on est intéressé. Quand on s'intéresse, on se cultive. Quand on est cultivé, c'est que, voilà, on s'intéresse à plein de sujets, plein de domaines. Et effectivement, on se retrouve avec des gens qui suivent les annonces de produits high-tech sur Internet, les streams en direct, et puis qui regardent, qui sont contents d'apprendre que Qualcomm a sorti un nouveau processeur 12 cœurs. Bon, bah, c'est super. Ouais. Mais pour moi, c'est juste que tous ces gens-là sont à la base déjà, enfin c'est un terreau à nerds en fait. J'aime pas utiliser et galvauder le mot geek, etc. Mais force est de constater que sur Internet on trouve plus souvent des geeks ou des apprentis geeks ou des que des mécaniciens quoi.
Donc aujourd'hui dans notre société en fait pour devenir cool, c'est faut plus apprendre la guitare, faut juste apprendre plutôt ces équations à deux inconnus.
Ah, si vous arrivez à faire un produit en croix déjà, vous serez mieux que certains ministres.
Allez, on fait croix sur le sujet. FAQ numéro 2, au parfum, au vieux parfum de vieux pots et de meilleures soupes. Quelqu'un me dit, j'ai un faible pour un vieux soft. J'utilise Dreamweaver, qui est un soft très sale pour faire des sites internet, mais j'utilise depuis la fin des années 90 et je n'ai même pas changé de version tellement que je suis bien, que je le maîtrise bien. Est-ce que vous aussi, vous avez un vieux soft ou un vieil outil auquel vous vous accrochez comme un doudou? Fibre, tu me regardes.
Eh bien, oui, j'utilise Dreamweaver 2.0.
Oh là là,
de 1998. Pourquoi? Parce que moi, le HTML, je le code à même Notepad, on va dire. Mais pour dégrossir les tableaux, les trucs comme ça, enfin, on va m'incendier parce que j'utilise des tableaux, mais pour dégrossir, bah, Dreamweaver est hyper léger, contrairement à une grosse machine qui met 30 secondes à se lancer, c'est parfait.
D'accord. Donc, Fibre, les métiers à l'ancienne, ça, c'est un spécial Jean-Pierre Pernaut.
Voilà.
Je code encore au bloc-notes. Sylvain.
Déjà, Fibre, sache que je ne te juge pas.
Mais Dreamweaver.
Ceci étant dit, moi, j'ai toujours un faible pour WinRAR, dont je n'ai jamais
payé la licence.
Et donc, j'arrive à savoir à l'avance où la petite fenêtre va s'afficher.
Oui, pour cliquer sur fermer automatiquement.
Ça,
c'est une vraie preuve de couple qui dure et d'habitude. Mélissa, est-ce que t'as un vieux soft? Mais dis pas Tumblr, ça compte pas comme un soft.
Non, je suis une bonne vieille utilisatrice de text edit. Je n'arrive pas à écrire des articles sous Word. J'ai vraiment beaucoup de mal.
C'est vrai.
Donc souvent, je fais ma vraie version sur text edit et puis je la fous sur Word et juste pour les fautes.
Ah, avec du bon vieux texte brut.
Voilà, en courrier.
Daz, toi, est-ce que tu as un vieux soft que tu utilises toujours ou t'es là? Non.
J'utilise Windows.
Ça me coûte tous les jours. Non, mais alors attends. Est-ce que tu utilises un vieux Windows et là c'est justifié ou est-ce
non,
que tu
prends la dernière? J'ai pris la 8, c'est un vieux troll, mais dans la 8 de toute façon on a tout l'héritage des anciennes versions, donc à la limite.
On arrête sur Windows.
Sujet numéro 3.
Google, ce géant qui vous veut du bien.
On disait tout à l'heure qu'il était étonnant de placer le mot science et le mot cool dans la même phrase. Et là, on a placé le mot Google et le mot du bien dans la même phrase. Alors que il est toujours de bon ton d'attaquer les géants, surtout quand ils sont américains et surtout quand ils sont un petit peu dans votre vie. Et pourtant, c'est la position que tient Sylvain. Que t'est-il arrivé, Sylvain ?
Eh ben, j'ai absolument retourné ma veste par rapport à ma chronique de la semaine dernière. Maintenant que j'ai trouvé un job, j'ai revu un petit peu mon discours sur les données perso. C'est bien joli la cyberflânerie, mais à un moment, les gars, il faut vivre avec son temps.
Sylvain, tu vas vite quand même, hein. C'est-à-dire que t'as pris 10 ans en un mois.
Un CDI,
en un mois,
fini, quoi.
Terminé. Donc toutes ces données qu'on crée, qu'on donne, qui sont parfois enregistrées à notre insu, elles sont pas là pour rien, elles sont pas là pour faire joli, elles sont là pour vous rendre service. Ouvrez les yeux. Donc, non, mais je te vois venir, Daz, avec ton discours anti-pub classique, qui est actuel en plus avec Free en ce moment. Mais n'oublie pas que pour la majorité des journalistes ou même des gens qui travaillent dans les médias, c'est grâce à la pub qu'on met du beurre dans vos épinards. Hein ?
Oh là 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 là.
Voilà.
Là.
Donc pour comprendre tout ça, je vais vous annoncer quelque chose d'assez grave, d'assez dramatique. Le web est mort.
Aïe.
Et ça fait un petit moment, ça fait depuis 2010, c'est pas moi qui le dis, c'est Chris Anderson,
l'ancien ex-rédacteur-chef
de Wired US.
Alors pourquoi le web est mort?
Eh ben oui, je vais t'expliquer très simplement là, mais avec un petit point technique. Internet est vivant. Le web est mort, mais Internet est vivant. Internet...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
c'est mettre des ordinateurs entre eux, les connecter. Le web, c'est un protocole qui permet de naviguer sur Internet.
Sur le web.
Sur le www. Donc on en parlait la semaine dernière avec la cyberflânerie. On accède maintenant aux infos via les smartphones, à travers des applications qui sont spécifiques. Et même si finalement les transferts de données sont protocolairement les mêmes, c'est différent parce que c'est plus du web et ça pose un problème à Google. Alors pour cette chronique, il faut que vous rentriez dans la tête, si vous le voulez bien, que Google est l'entreprise la plus gentille du monde.
Oh là
d'accord
là là là.
S'il vous plaît. Google a été envoyé sur notre planète par une race supérieure pour nous aider à survivre dans ces temps obscurs.
Google paye ses impôts en France.
Non, justement, c'est faux.
Le modèle est très simple, je vous explique. Google, c'est un petit robot qui peut lire le code des pages internet, donc il peut lire le HTML et il met ça dans sa base de données. C'est très pratique parce que ça permet d'organiser le web, de le chercher, et ça a aussi ses petits plus parce qu'on peut faire de la publicité contextuelle, mais ça c'est un détail.
C'est un petit détail utile de Sylvain.
C'est tellement pratique que c'est devenu indispensable. Google, c'est la porte d'entrée du web. Ma mère, encore elle, des fois elle m'appelle en panique pour me dire Google est cassé. En fait, c'est juste que le wifi ne marche plus à la maison. Elle n'arrive plus à accéder sur internet, pour elle Google est cassé. Pour aller sur Facebook, d'ailleurs, un utilisateur moyen va taper Google dans la barre d'URL, puis Facebook dans Google, et enfin cliquer sur le premier résultat. C'est pratique quand même.
C'est une inception d'URL.
C'est très pratique. Seulement, voilà, le web est mort, et ça veut dire que le petit robot de Google n'a plus rien à manger. Parce que si c'était facile de bouffer du code sur les sites web, c'est plus dur de croquer dans les applications des smartphones. Alors on est triste, parce que je vous rappelle que Google veut notre bien, et nous on le laisse sur le paillasson, la porte au nez, comme un témoin de Jéhovah.
C'est
même triste.
Code de Google.
Et c'est là qu'intervient quelque chose de très beau, quelque chose de très intelligent, et là Daz ne va pas me contredire, quelque chose de très séduisant. C'est un petit peu le gendre idéal, c'est l'utilisateur d'Android. Encore un nom de robot d'ailleurs. Hein. Et oui, grâce à Android, Google sait où je suis, où je vais, avec qui je suis, et tout ce que je fais dans la journée. Du coup, il peut m'aider à me faire la place dans cette jungle qu'est la vie.
Grâce à tous
ces services qui m'aident au jour le jour. Mais vous, dans votre égoïsme, et oui, vous les utilisateurs moyens, vous refusez à cette entité suprême l'accès à vos données. Pourquoi? Mais pourquoi? Vous êtes réticents car cela vous dépasse. Mais je vais vous donner un exemple très pratique. Plutôt que vous donner bêtement un itinéraire Paris-Lyon, comme pourrait le faire un Via Michelin, Google, lui, va vous proposer bien plus si vous, justement, nourrissez ce petit robot. Il va vous donner des choses fantastiques comme un relais routier qui est sur le trajet vers midi. Il va vous dire, vous pouvez vous arrêter pour manger ici parce que vos amis routiers sur Google Plus lui ont donné une bonne note.
Parce que, donc ça veut dire qu'il y a des gens sur Google Plus.
Absolument.
Des routiers.
Ceux qui sont encore sur la CB.
Google Plus a remplacé la CB. Absolument. Donc nourrissez ce petit robot et bientôt il sera assez gros pour changer votre vie. Parce que de la même façon Google a maillé le web, ils vont mailler l'espace physique, ils vont apporter la fibre optique, des voitures qui se construisent tout seuls, des lunettes qui voient à votre place, c'est génial. Et vous serez tous super sexy. Comme Sergey Brin et comme Loïc Lemaire avec vos lunettes. Alors, pour finir, je le dis, et ça vous rappellera la chronique de la semaine dernière,
du mois dernier,
loguez-vous le plus souvent possible, filez vos infos personnelles dès que vous le pouvez, gardez tous vos cookies pour que le petit robot mignon ne meure pas de faim, et surtout arrêtez de flipper et faites confiance à Google parce qu'ils sont gentils.
Merci Sylvain. Donc, disclaimer, Sylvain a trouvé un boulot, mais ce n'est pas chez Google.
C'est pas chez Google.
Voilà, il n'est pas employé, on dirait. Donc,
non, mais j'ai toujours été très amoureux de Google.
Google est son client.
Voilà, donc Sylvain, évangélisation de Google. Et plus généralement, acceptation du fait qu'il y a des big brothers aujourd'hui et qu'il faut vivre avec, Sylvain.
Ça fait écho.
Toi qui vis toujours sous un pseudo secret, dans un lieu secret.
Oui, en plus je navigue tout le temps en session privée. Donc vraiment, par contre.
Ah, mais je crois que c'était juste pour les trucs porno, ça, les trucs secrets.
Non, surtout comme ça, j'ai pas pensé à switcher.
Donc toi, t'es pas sympa avec le robot de Google.
Moi, je trouve que Chris Anderson est un enfoiré de dire que c'est le web est terminé, c'est vraiment des propos délirants. Okay. Et en fait, il faut bien voir une chose, c'est que Google, c'est une entreprise qui a connu beaucoup plus d'échecs que de victoires. Google, il a réussi à faire un bon moteur de recherche et à faire une bonne agence de pub. Sorti de ça, on a Google Maps aussi. Ouais, on a, bon, est facile, ils ont des téraoctets de serveurs, donc forcément, ils ont fait un bon client mail. Mais sorti de ça, je veux dire, ils ont aligné les échecs. Google Wave,
c'était
rappelez-vous.
Génial.
Google Answer, rappelez-vous.
Google Wave, c'était génial.
Les fibres,
on
ne pas construire en un jour.
Attendez. Les génies de Google, ils copient Yahoo Question, ils font la même chose, c'est-à-dire zéro créativité, et en plus, ils arrivent à se planter. Okay.
Mais alors, du coup, tu es contre le fait de donner tes données à un Big Brother en général, ou tu es contre le fait de donner tes données à une entreprise qui fail?
S'ils arrivent à les prendre, je veux bien. Non, mais le thème, c'est Google est-il gentil? Et Google, et
toi,
en fait,
la question, c'est Google est mauvais.
Pour moi, Google, il a défiguré l'internet. Je veux dire quelque chose que les jeunes gens ne connaissent pas, c'est qu'internet à la base c'était un service qui s'appelait Usenet, où les gens échangeaient des choses. Google se l'est accaparé, a appelé ça Google Groups, et après, une fois qu'il l'a bien pris sous son emprise, il l'a mis de côté. Aujourd'hui, c'est oublié. Or, si un jour vous plongez dans Usenet, où vous avez des choses merveilleuses, vous avez le premier mail qui parle du sida avant que le sida existe, où les gens se posent des questions, qu'est-ce que c'est que le sida? Mais c'est, franchement, c'est l'histoire de l'Internet qui est là-dedans. Eh bien, ça n'existe plus, Google l'a éliminé.
Daz, est-ce que toi, tu es aussi radical que fibrotique, ou est-ce que tu accepterais de donner tes données à Google pour qu'il en fasse des choses plus ou moins pratiques? C'est vrai qu'on en parle un peu l'année dernière, il y a des gens qui ont accepté finalement de donner leurs informations et disent, bon, oui, il y a des Big Brother, bah, ok,
la vraie question que moi je me pose, c'est ce plan cul à Charenton, est-ce qu'il existe vraiment?
Genre, baiser des filles près de chez vous?
Voilà, des cougars open qui habitent à Charenton. Moi, j'ai rien contre cette utilisation de nos données personnelles tant qu'elle va dans le bon sens, c'est-à-dire tant qu'on se fait pas assommer de pubs en tout genre et de propositions de liens qui pourraient.
Pourtant, le business model de Google, c'est quand même ça.
Oui, mais c'est en fait, je pense qu'il faut raison garder. C'est-à-dire que moi, j'ai absolument rien. Je le dis là parce qu'on a évoqué Free tout à l'heure. J'ai rien contre la pub, par exemple, sur Internet, tant qu'elle est à visage humain. C'est-à-dire que quand moi j'ai une vidéo qui se lance en autoplay et en pop-over machin là, qui m'empêche de voir la page, qui s'obscurcit tant que j'ai pas cliqué sur le lien machin, ça pour moi c'est effectivement l'abus de publicité et je suis contre ça.
Et au-delà de la publicité, est-ce que ça te dérange que une société
mais c'est la pub, tout tourne autour de la pub, parce que en dehors de te proposer des trucs qui ressemblent à ce que t'as cherché par ailleurs sur ta session suivante, je veux dire qu'ils me proposent des bottes parce que j'ai cherché des chaussures l'avant-veille, moi ça me dérange pas.
Donc tu vis quand même avec.
Je vis avec déjà parce que j'ai pas le choix, je suis pas Indiana Jones, je suis pas fibre tigre, hein, donc je vais pas me couper de la vie parce que j'aime pas les gens que je croise. Par contre, je vais pas aller au niveau de Sylvain, à savoir d'utiliser Android, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour l'ergonomie de manière générale. Hein, mais le fait qu'on utilise mes données de navigation, moi si j'estime que c'est vraiment ultra touchy, je me mets en privé, effectivement.
Mélissa, voilà. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce géant qui te veut du bien, pour certains trop de bien, et pour Sylvain, juste assez du bien.
Il y a tellement de limites maintenant. Enfin, disons que les conditions de vie privée ont été quand même régularisées par rapport à il y a quelques années où tout était un peu flou. Donc, quand moi, un groupe me file autant de services, enfin, je veux dire, Gmail, Google Reader, Google Drive, Google Maps, qui me servent tous les jours et qui utilisent quelques-unes de mes données dans des limites, disons, bonnes.
Tu vois, Fibre, il y a des trucs qui ont marché quand même.
Je pense que, pour moi, c'est réglo, parce que ça me fait gagner énormément de temps. Enfin, grâce à Google, je vis tous les jours et je pense que, rappelle, en tout cas, en 2008, quand Gmail est tombé pendant 4 heures, je pense que la Terre s'est arrêtée de tourner.
Cauchemar.
Vraiment.
Ah.
C'est genre, rappelez-vous ce que faisiez ce jour-là en 2008. C'est un peu le 9/11.
Tout le monde était là, genre, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais?
Et donc, voilà. Donc pour toi, c'est en fait le fait de donner tes données à un géant, c'est aussi une sorte de monnaie d'échange, c'est ta manière à toi de payer, quoi.
C'est ça.
Mais quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est
la grande classique.
Elle est dans toutes les écoles de commerce depuis 1871. Donc bon, voilà, c'est.
Non, mais c'est un échange de.
Donc juste pour terminer, parce qu'on a fini sur le temps imparti, est-ce que vous acceptez, à partir de dans vos existences aujourd'hui, la présence de Big Brother qui font une sorte de monnaie d'échange entre vos données et les services qu'ils vous offrent?
Oui.
Oui, dit Fibre. Même s'il n'avait pas l'air au début, il dit. Sylvain, évidemment, lui, il saute dans un champ de pâquerettes au ralenti avec un collet de marguerite.
Si comme Google, ils mettent l'expérience utilisateur avant tout, alors je dis oui. C'est un oui, là.
C'est un oui de mariage, quand même. Hein. Là, il avait le bouquet, là. Mélissa.
C'est un grand oui. Je suis très contente que Google Maps soit revenu sur mon iPhone.
Ah. Et toi, Daz, du coup, ouais. Big Brother?
Ouais. Ouais. À la cool, mais ouais.
Oh, c'est vrai qu'on s'est tous un peu embourgeoisés, là. On est
pour les... C'est pour ça que je vous aime.
Parce qu'on est bourgeois.
F-A-Q.
Alors, c'est une question que je dirais qui pourrait être dans le spécial endroit de tendance du Nouvel Obs. On parle de lieu branché. On dit Firefox est moins in qu'avant. J'ai l'impression que c'est un navigateur qui est moins. Avant, c'était un peu la coqueluche des navigateurs et c'est un peu ringard. Donc, pour les Parisiens, c'est un peu le barrio latino des navigateurs. On me dit Firefox est-il moins in? Sous-entendu, genre Chrome, c'est peut-être plus cool. Internet Explorer, ça revient à la mode. En une phrase, Fibre, qu'est-ce que tu penses de Firefox?
C'est pas plus cool, c'est juste qu'il est plus à jour. Il est trop lourd, trop boursouflé. Il est pas efficace pour surfer. D'accord. Utilisez Chrome.
Donc pour Fibre, Firefox c'est un gros panda roux, mais un gros panda roux obèse. Toi, Sylvain, qui est fan de Chrome, je suppose.
Je suis de l'avis de Fibre. C'est une chambre à air avec beaucoup trop de rustine. Voilà.
Donc le projet est bon. Toi, Mélissa, c'est pareil. Vous êtes pas pour l'idéologie qu'il y a derrière.
Je pense qu'on était tous sur Firefox il y a 2 ans et qu'on est tous passés sur Chrome. Non. Après, sur Firefox, il y a énormément de add-ons et plugins bien utiles qu'on n'a pas forcément sur Chrome. Mais je suis sur Chrome, clairement.
Non.
Toi, non, c'est-à-dire non.
Non. Non, je n'étais pas sur Firefox il y a 2 ans. Moi, j'utilise.
T'étais sur Safari.
J'utilise Safari.
Qui
partage le moteur WebKit avec Google Chrome. Donc, ouais, de toute façon.
Qui est un peu le Google Plus
cœur.
Des navigateurs.
C'est le même cœur. Bah, moi, Safari, je l'aime beaucoup.
D'accord. Donc,
c'est horrible.
J'utilisais Camino avant. Ça parle à personne. Mais, et ça, par contre, je crois que c'était le moteur Gecko de Firefox. Donc, comme quoi.
Bon, Firefox n'est pas une, mais on retient son héritage et c'est le plus important.
Sujet numéro 4.
La télévision est morte. Mais le téléspectateur est vivant.
Et pour notre dernier sujet, si on parlait d'un bon vieux média, à l'ère des nouveaux médias, c'est la télévision. La télévision au sens le média, mais aussi au sens l'objet, le téléviseur. Pour nous en parler, un couch potatoes.
Un
couch potatoes. Donc
c'est le nom de paire de canapé.
Voilà, c'était l'expression consacrée pour les gens qui passaient leur vie devant la télé dans les années 80-90. C'est Daz. Comment ça va face à la télé?
Eh bien, ça va très bien face à la télé. Il suffit de voir le CES de cette année. Donc le CES, hein, c'est le salon de l'électronique grand public.
C'est la grande messe annuelle. Hein.
Voilà, qui se passe à Las Vegas tous les ans depuis l'an 40 à peu près.
Et donc, quelles sont les tendances, un peu comme la Fashion Week?
En fait, donc qui dit électronique grand public dit forcément télévision à un moment ou à un autre. Donc au CES, on a eu les écrans plats qui sont arrivés il y a quelques temps. L'année dernière, on a mis l'accent sur la 3D. Et cette année, donc, moi, ce que je vois autour de tous les autres trucs technologiques qui sont super sympas à regarder, hein, c'est quand même une arrivée en force de la Smart TV.
Donc la Smart TV dont on parle depuis quelques temps, voilà. Mais qui va vraiment vraiment arriver pour de vrai.
Donc là, c'est vraiment le côté grand public, c'est-à-dire qu'avant la Smart TV, c'était sur les écrans les plus chers qu'on la trouvait. Là maintenant, il y a plein de constructeurs, donc parmi lesquels on a Google évidemment, hein, Sylvain, Asus, Arcos, qui proposent des boîtiers en fait, hein, qui se branchent sur votre télé actuelle, sous-entendu, pour profiter de la Smart TV, donc de la télé connectée à Internet, c'est pas forcément la peine de racheter une nouvelle télé, surtout si vous êtes saigné pour un écran plat il y a 3 ans.
Mais alors pourquoi la Smart TV? Pourquoi on en arrive là?
Eh ben, on en arrive là parce que la méthode de consommation des programmes télé, elle a complètement éclaté.
Par rapport à
il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, où on avait l'habitude d'avoir un écran de télévision pour un programme télé linéaire, dans le sens où on devait le choper au début et puis le suivre jusqu'à son terme. Ça, c'était ce qu'on avait avant. La télévision ne servait qu'à ça. La télévision, maintenant, son utilisation est un peu plus diversifiée. On joue aux jeux vidéo dessus, donc ça... Les plus anciens me diront qu'on joue aux jeux vidéo sur la télé depuis bien longtemps, et je suis d'accord avec eux. Mais n'empêche que là, maintenant, on constate que le couple téléviseur et programme télé a complètement été chamboulé par l'arrivée du web et par l'arrivée de tous les smartphones et les
c'est
tablettes.
C'est plus un papa et une maman, quoi.
Non. Ah. Non, maintenant, il y a toujours la maman qui est la télévision au sens programme.
Ouais.
Et il y a tout plein de papas. Énormément de papas, des petits papas, des gros papas, des papas moyens.
Donc de ce côté-là, déjà, la télé diffuse autre chose que la télévision.
Ouais. Ouais, ouais. La télé,
diffuse de l'internet.
Elle diffuse de l'internet, ou plutôt l'internet s'invite dans les foyers et les gens utilisent internet pour regarder la télévision. Donc ça équivaut un peu à ce que Sylvain disait, qu'on allait dans Google pour aller sur Facebook. C'est un peu ça avec la télévision et internet.
Et de l'autre côté, la télévision, le média, a lui aussi un peu éclaté dans sa manière d'être diffusé.
Alors justement, le média, lui, en fait, s'est adapté. Parce qu'on aura toujours les gens qui se racontent le matin l'émission de la veille, ça on n'y coupera pas. La nouveauté maintenant, c'est que les gens se racontent la veille l'émission de la veille, c'est-à-dire qu'ils sont en train de commenter l'émission en direct sur leur deuxième écran.
Alors ça, c'est encore un autre truc. Le deuxième écran, c'est que la télé, on n'a plus un écran, on en a deux.
Voilà, en général, on a le programme sous les yeux, et puis on a les réseaux sociaux branchés dans la main droite ou la main gauche pour commenter en direct et ce qui se passe.
Donc la télé telle qu'on l'a connue est un peu morte.
La télé telle qu'on l'a connue, effectivement, si elle n'est pas morte, il y a un troisième bras qui est en train de pousser. Et
elle a muté.
Elle est en train de bien muter, ouais, tout à fait. Particulièrement sur la partie... programme, savoir programmation, puisque avec les sites de vidéos en ligne, type YouTube ou Dailymotion pour les gens qui sont chez Free et qui peuvent pas aller sur YouTube parce que ça rame, on peut se faire son programme à la carte en fait.
Oui, ça c'est aussi l'autre grosse révolution de la télé. C'est
voilà. Et alors pour suivre un petit peu ce concept-là, donc les chaînes de télé se sont mises à proposer des programmes thématiques. Donc maintenant, on a toute une palanquée, on a 147 chaînes, certaines qui s'intéressent qu'à la nature, d'autres qu'à la voiture, d'autres qu'à la cuisine, et puis de la même manière qu'on serait sur YouTube en train de passer d'une vidéo à l'autre, là on passe d'une chaîne à l'autre, donc on continue à zapper.
Et le téléspectateur au milieu de tout ça, nous, Alors nous, consommateurs de téléviseurs et de télévision, qu'est-ce qu'on vient ?
Du coup, on est toujours là, on est même plus là qu'avant. La télé, en fait, en tant que totem, dans la mesure où ça rassemble les gens au sein du foyer, on n'a pas fait mieux. Parce qu'on a beau avoir des ordinateurs un peu partout dans les maisons, c'est quand même plus sympa d'avoir tout le monde sur le canapé qui regarde un programme à la télé plutôt que tout le monde qui se met derrière toi sur ton netbook de 10 pouces pour regarder la dernière vidéo de Norman. Donc voilà, on a beau évoluer, on a beau se moderniser, on reste quand même sur ce plan-là, c'est que la télé, ça reste quand même convivial, beaucoup plus convivial qu'un ordinateur. Et puis, on a quand même ce besoin de temporalité dans la conso d'un programme.
Ce dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà, ce que les téléspectateurs aiment. En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est de me dire que ce que je suis en train de regarder là, il y a d'autres gens qui sont en train de le regarder en même temps que moi. Et ça nous donne l'impression d'appartenir à un tout, de ne pas être tout seul.
Toi aussi, tu as des envolées lyriques.
Voilà.
Tu es un peu ton Sylvain Palais, là.
Et ça, c'est l'avantage de la télévision à l'ancienne. Comme on dit, c'est que, se faire ses programmes soi-même sur YouTube ou Internet, c'est super sympa de cliquer à droite, à gauche. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est se vautrer comme des éléphants de mer dans le canapé.
Oh, c'est beau.
Et puis consommer mollement ce qu'on nous donne. Donc le téléspectateur est encore là pour longtemps.
Le téléspectateur est là. Donc Daz reste un téléspectateur du 20e siècle dans une télé du 21e siècle.
Ah oui.
Mélissa, j'ai vu que des fois t'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait, Daz. Est-ce que toi déjà t'as pas de télé.
Elle a pas
donc,
de télé.
Je n'ai pas de télé. Donc quand moi il dit que donc, c'est déjà, le
Mélissa,
centre
c'est genre,
de la
je joue pas aux jeux vidéo et maintenant c'est Mélissa, j'ai pas de télé.
Mais je regarde la télé.
D'accord. Comment tu regardes la télé aujourd'hui du coup?
Je regarde les émissions sur les trucs de catch-up. Donc je regarde Arte plus 16, je regarde Plus. Enfin, je regarde les émissions que je veux voir sur d'autres canaux, disons. Mais je suis assez peu dépendante à disons à la temporalité. C'est-à-dire que je peux regarder un truc 3 jours après, je m'en fous.
Mais c'est parce que t'as pas d'amis, ça.
Non, mes amis, je les vois et du coup après je rentre et je regarde les trucs que les autres regardent.
Tu live tweet jamais alors toi?
Ah si, il m'arrive de live tweeter, oui.
Elle live tweet 2 jours après en fait.
Oh, putain, je prends regarder dans ça avec les stars, c'est génial.
Elle later tweet en fait.
Voilà.
C'est ça. Non mais la social TV existe certes, mais pour les gens qui sont effectivement devant leur écran au bon moment. Moi je regarde les émissions, disons, sur internet quand il y a de plus en plus de live. Enfin, France 2, ils mettent plus en plus genre mots croisés ou des paroles et des actes en direct, et moi je les tweet en regardant ça sur mon écran et ça m'empêche pas de regarder ça et de regarder que ça.
Donc toi tu vis des moments de télé mais t'es plus dans le flux non-stop qu'on avait pendant 4-5 heures, regarder ce qui passait à la télé. Tu restes quand même quelqu'un d'actif qui choisit ses programmes, qui sont en direct ou en différé.
Oui, j'ai choisi d'être comme ça et de pas avoir de télé, de pas me planter devant ma
et
télé.
Au final, mais c'est exactement pareil. Hein,
mais je regarde la télé sur un écran et je suis capable de regarder que ça et de pas.
Voilà, c'est juste au lieu d'avoir un écran de 45 pouces, t'en as un de 10 pouces. Quoi.
Voilà. Je n'ai pas encore les moyens d'avoir 45 pouces en HD.
Sylvain, toi, est-ce que tu es comme Mélissa, quelqu'un qui a une sorte de discipline et d'hygiène et par rapport à sa relation à la télé, c'est-à-dire qu'elle va choisir son programme et le regarder, ou est-ce que tu aimes bien cette consommation l'ancienne que des fois un petit peu d'as, qui était aussi le plaisir de se vautrer devant un écran et de voir ce qui passe et de se laisser aller un petit peu?
Mais écoute, moi j'aime beaucoup ce côté, la temporalité, de tous regarder le truc ensemble, avoir l'impression de faire partie de toute la communauté de Michel Drucker, etc.
Vivre ensemble.
Mais j'ai plus le temps de le faire. J'ai plus le temps de consommer les choses passivement en fait.
D'accord.
Il faut que je sois dans l'action, donc il faut que je sois devant un ordinateur. Et si j'ai envie de regarder une émission, je vais la regarder sur le net, je vais la regarder sur YouTube par exemple.
Fibre, toi. Comment tu consommes la télé? Est-ce que tu la consommes déjà?
Bon, je la consomme, elle est dans mon dos et pendant que je suis devant l'ordinateur. C'est un bruit de fond, mais.
Donc ça, c'est une jolie métaphore. Donc toi, t'es quand même devant l'ordinateur avec la télé dans le dos.
Ouais. Mais par contre, j'ai quelque chose à dire sur la télévision parce qu'on n'arrête pas de dire la télévision à l'ancienne.
J'ai une minute pour le dire.
Ok, pas plus. Pour moi, le futur de YouTube, c'est la télévision, c'est TF1. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des contenus sur Internet, que ce soit des images, des sons ou des vidéos, tôt ou tard, il y a un éditeur, entre guillemets, qui les sectorise comme Flickr pour les photos. Et après, on cherche des gens qui sélectionnent les meilleures photos parce que nous, on veut voir que le meilleur. Or, ces personnes existent pour les vidéos du monde entier. Et ces personnes, c'est les directeurs des programmes de télévision. Et en fait, le futur de YouTube, ce sera une chaîne de télé comme TF1. Alors, il y aura peut-être des programmes mieux. Mais aujourd'hui, ça existe vraiment. Aujourd'hui, en fait, la télévision à l'ancienne, c'est la télévision du futur. Voilà.
C'est ça qui est beau.
D'ailleurs, pour finir là-dessus, c'est que YouTube lance ses propres chaînes de télé. Donc, on a une sorte de fusion et de mariage de tous les genres en même temps.
Moi, ça me promet des dimanches après-midi super sympas.
L'important, c'est dimanche après-midi.
Téléconnecté. Bon.
Vous pouvez garder votre télé allumée et reprendre une activité normale, comme disait un certain PPD.
FAQ.
La dernière fois qui est intéressante parce qu'elle nous sert quasiment de teasing pour l'émission du mois prochain. Donc, Sylvain, pas la semaine prochaine, le mois prochain, Sylvain.
Ouais, c'est la temporalité.
Ça parle de sexe. Ça parle de sexe. On me posait la question, on me dit, depuis que j'ai accès à du porno de manière illimitée et facile, ça m'excite moins d'aller voir du porno. Est-ce que vous partagez cette observation d'un érotomane peut-être repenti? Personne ne me regarde, tout le monde baisse les yeux. Alors au hasard, on va faire tourner la roue. Mélissa, qui sur Tumblr, qui est quand même un réseau très très cul.
Très érotique, pas ouais, oh, si, Romain, oui, si,
alors, si, c'est porno. Est-ce qu'à ton avis, est-ce que tu partages le sentiment de cette personne qui fait que le porno, depuis qu'il est devenu très accessible, finalement est moins excitant?
Non, c'est faux. D'accord. Non, je suis pas moins excitée par le porno sur Internet. Cela dit, il y a moins, disons, l'infraction de quand tu regardais le porno sur M6, enfin le film soir. Érotique le dimanche soir ou
oui, faire sur canal le premier samedi du mois. C'est pas porno.
C'est ça.
Donc tu peux comprendre le fait qu'il y ait le côté moins.
C'est trop facile. C'est trop facile.
Trop facile. On est d'accord. Sylvain,
je ne consomme pas de porno.
Mensonge, calomnie.
Sylvain vient de dire ça, tu ronges trois ongles.
Il est là. On peut appeler le CNRS.
Baz, est-ce que des fois tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas avoir du porno en mode couch potato?
Absolument pas.
Les mecs, ils n'assument pas.
Mais bien sûr que non. Non, mais par contre, je suis complètement d'accord avec l'auditeur érotomane secret. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a tellement que finalement, tu sais même plus quoi regarder, donc t'en as rien à foutre, quoi.
Ok. Fibre.
Tout nu avec excès, il faut qu'il diminue un petit peu les doses et ça ira mieux.
C'était une très très bonne ordonnance, matin, midi, mais pas soir.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Nous nous sommes espionnés, nous nous sommes rencontrés sur une équation. Nous avons partagé ensemble sous l'œil bienveillant de Google et nous avons regardé la télé ensemble, l'un sur l'autre, dans un gros canapé. C'était un plaisir de partager tous ces moments avec vous et surtout un grand plaisir de le partager avec mes quatre chroniqueurs que je remercie encore, Daz, Mélissa, Sylvain et Fibre qui nous regardent déjà plus parce qu'il est en train de checker Instagram. On se retrouve nous le mois prochain pour la 5e émission de Studio 404. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.